Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Pour l'heure, avant d'aller battre le pavé, j'espère que vous vous y rendrez en dépit du temps, en dépit du peut-être découragement qui s'est emparé de vous, nous fêtons quelque chose de très réjouissant puisqu'il s'agit du très saint rosaire de la Vierge Marie qui prime sur le dimanche. Je voudrais simplement évoquer avec vous deux caractéristiques fondamentales du rosaire. Le rosaire est à mon sens, je m'inscris tout simplement dans la ligne de l'Église, comme d'habitude, de la tradition et du magistère. Le rosaire est à mon sens à la fois un trésor dans lequel nous devons puiser sans vergogne, en même temps qu'il est une arme dont, là encore, nous devons puiser aujourd'hui plus que jadis. C'est un trésor, nous connaissons la logique de la très sainte Vierge Marie, puisqu'il s'agit de son trésor, le rosaire de Notre-Dame. Nous connaissons sa logique qui transparaît partout dans l'Évangile. Marie ne garde jamais rien pour elle. Pas plus qu'elle n'a gardé ce joyau absolu qu'elle a pendant 9 mois porté en son sein, mais qu'elle a partagé avec l'ensemble de l'humanité et avec quelle magnanimité. Elle n'a pas gardé son petit précieux, comme certaines mamans sont tentées de le faire. Oh, je les comprends, ces mamans-là, notamment lorsqu'il s'agit d'aînés. Cet enfant est tellement merveilleux, il est l'effigie de son père et de sa mère, il ressemble tellement à ses parents, en même temps qu'il est magnifique et qu'il vient réjouir ce foyer. Je comprends très bien qu'au début, on cherche un peu à se l'accaparer. Mais la Vierge Marie, elle, son premier-né, son fils unique même, elle ne l'a jamais gardé par devers elle, elle ne s'est jamais repropriée, puisque vous savez que la nuit même de Noël, les anges, puis les bergers, puis ensuite les mages, quelques semaines plus tard, sont venus se prosterner sans que Marie n'ait rien gardé pour elle. Elle se tenait en silence, l'enfant Jésus, dans ses langes. Donc, de même que la Vierge Marie n'a pas gardé ce bijou qu'est l'enfant Jésus pour elle-même, de même et a fortiori pour ce collier de perles qu'est le rosaire. Car il s'agit bien de cela. Un collier de perles que la Vierge Marie a d'abord confié à Saint Dominique, vous le savez, et à l'ordre des prêcheurs, comme un bijou propre à cette congrégation, avant d'en recommander la prière à d'obscurs fidèles au cours d'à peu près toutes ses apparitions. La Vierge Marie a permis que le rosaire devienne, à côté des sacrements, le patrimoine commun, c'est-à-dire le bijou de famille des chrétiens. Et combien, mes bien chers frères, il est étrange, quand on sait combien les bijoux de famille attirent les rapaces de tout poil, combien il est étrange que nous autres, qui sommes de cette famille chrétienne, nous n'allions pas davantage pillé ce bijou que la Vierge Marie nous donne en héritage. J'avoue que je m'en étonne. Ce bijou, il est assez particulier. Il ne suscite pas, lui, de jalousie, comme certains joyaux qui se transmettent de génération en génération, comme certains joyaux donc, divisent les familles. Parce que ce patrimoine est matériel, il est fini donc, et il ne peut pas se partager indéfiniment. Alors, eh bien, il fait l'enjeu de toutes sortes de disputes. Et l'on sait combien on s'étripe à la mort des parents, entre frères et sœurs, même dans des familles où aucun signe avant-coureur ne s'était manifesté. Eh bien, pour ce joyau particulier qu'est le rosaire, rien de tel. Aucune jalousie, parce qu'il s'agit d'un trésor spirituel. Ce trésor-là, plus il se partage et plus il se multiplie. Vous voyez donc que nous n'avons pas à craindre de nous étriper les uns les autres, et du reste, je crois que nous nous étripons assez peu pour s'emparer vraiment de ce rosaire et le réciter à toute vitesse dès que nous pouvons. Il a une valeur incomparable, ce rosaire, parce que ces perles-là, non seulement n'ont rien d'artificiel comme de vulgaires perles de brocante, non seulement elles ne viennent pas même de ces huîtres dans lesquelles on les trouve, ces perles naturelles qui sont magnifiques, elles sont, ces perles du rosaire, ciselées par la Vierge Marie elle-même. Voyez combien Marie est délicate. Il s'agit soit de perles, soit même de, vous savez, ces petites figures, ces petites photos, ces petits portraits que l'on porte en sautoir sur les bijoux féminins. À chaque dizaine correspond un mystère. La Vierge Marie a taillé délicatement, a ciselé une petite scénette représentant ce mystère et qui nous permet, par-delà les siècles, d'entrer dans l'histoire de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez combien nous devrions vraiment aller à ce rosaire, nous en emparer et le réciter. Il s'agit d'un joyau particulier qui nous met en présence de ce qu'il représente. Lorsque nous gardons un héritage familial, lorsque nous gardons tel ou tel bijou, nous nous souvenons que nous avons vu notre grand-mère, peut-être notre aïeul, le porter, et nous sommes émus. Là, le rosaire nous permet d'aller plus loin. il nous met en présence, par-delà les siècles encore une fois, il nous met en présence des scènes qu'il représente. Il faut, je crois, retrouver sur ces rivières de perles que sont les trois ou quatre chapelets, selon qu'on accepte qu'il existe des mystères lumineux, comme Jean-Paul II nous y invitait, il faut retrouver, je crois, sur ces rivières de perles-là, sur ce trésor de famille, le regard émerveillé de qui ? Mais le regard des jeunes fiancés. Ces jeunes fiancés à qui on vient de demander la main et à qui, en gage de fidélité, on a d'ores et déjà offert une bague de fiançailles. Regardez, enfin, certaines d'entre vous qui ont déjà porté ce genre d'attributs, savent très bien de quoi je parle. Vous avez, pendant les premières semaines de vos fiançailles, fixé avec contentement ce bijou que vous portiez à votre annulaire gauche et qui non seulement témoignait de l'amour de votre fiancé, d'une promesse de fidélité, mais qui également était assez beau et dont vous tiriez une certaine gloriole. Mais vous aviez raison, vous qui êtes pas tant des dames, vous aviez raison, mais je crois que nous devons faire de même avec le rosaire. Avoir un contentement à porter ce rosaire qui est le trésor de Marie. Il faut retrouver ce regard neuf sur ce trésor. Il y a une deuxième dimension que j'évoquais en introduction dans ce rosaire, il s'agit de l'arme qu'est le rosaire. Souvenons-nous de David, ce jeune freluquette berger qui vient au devant des redoutables troupes philistines qui s'apprêtent à ne faire qu'une bouchée du peuple élu, qui était un tout petit troupeau en réalité, et qui ignorait, ce jeune David, tout l'art de la guerre. Il osa défier le champion Goliath. À la stupeur générale, pourvu seulement d'une seule arme, mais quelle arme dérisoire et misérable quand on considère le javelot, le glaive, le bouclier dont était paré ce soldat, pour ne rien dire de son casque, ce petit freluquet-là s'avance pourvu simplement de 5 cailloux, souvenez-vous, qu'il est allé chercher dans le lit d'une rivière. 5 cailloux et une petite fronde en cuir. Pensez-vous qu'il puisse être victorieux de ce géant Goliath ? Eh bien, qu'advint-il, vous le savez, le rictus moqueur du géant philistin n'eut pas le temps de s'estomper, qu'il avait déjà la face contre terre, il venait de mourir, victime d'une seule de ses pierres. Je crois que nous pouvons trouver dans cette figure de David face à Goliath une préfiguration, un symbole de ce qui advient par le rosaire. C'est incroyable et pourtant c'est vrai. Il y a dans le rosaire une puissance telle que cette pierre qui est victorieuse du Philistin. C'est, je crois, la botte secrète de Notre-Dame, non seulement le joyau de famille, mais la botte secrète de Notre-Dame. En de nombreuses occasions, le danger était aux portes de la chrétienté. Ça prend rien, vous connaissez tous cela par cœur, sur le point de triompher, voilà que l'ennemi s'avance, et subitement, parce qu'en dernier recours, les fidèles n'ayant rien de mieux à faire, ils se savaient faibles, ils sont allés se prosterner aux pieds de Notre-Dame, se jeter dans les jupes de Notre-Dame, si j'ose dire, et écoutant enfin son conseil, se sont emparés de ce petit chapelet qui était au fond de leur poche. Et qu'advint-il ? 1571, les pentes, je crois même pouvoir dire 1989, la chute du mur, et ensuite la chute de ce colosse qu'était l'Empire soviétique. Car nous savons, nous autres chrétiens, qu'il y a une géopolitique de Notre-Dame, quand même elle le rappelait l'abbé de Tannoirne, et qu'il y a une sorte de fil invisible au fond de l'histoire qui est fait d'autre chose que de traités internationaux et de disputes entre hommes politiques ou encore de combats armés contre armés. Nous savons qu'il y a la force de la prière. Eh bien, tel est le privilège des disciples de Marie, que reconnaissant humblement que par eux-mêmes, ils ne peuvent rien, ces disciples peuvent avoir l'intelligence de s'en remettre à celle dont l'Écriture nous apprend qu'elle est plus redoutable qu'une armée rangée en ordre de bataille. Le Saint curé d'Ars, je vous le dis à peu près à chaque célébration de la fête du Rosaire, mais vous connaissez le curé d'Ars mieux que moi sans doute, le curé d'Ars nous l'a dit à plusieurs reprises, un seul Ave Maria ébranle tout l'enfer. Imaginez donc, lorsqu'il s'agit de 150 Ave Maria qui sont égrenés au fil du chapelet. De quoi, je crois, nous galvaniser et nous redonner courage pour, à nouveau, alors que le danger se présente à nous, aujourd'hui, je parle d'aujourd'hui, 5 octobre, aujourd'hui, nous avons 2 dangers. Le premier danger, évidemment, c'est celui que nous allons essayer de combattre tant bien que mal par notre présence face à ce gouvernement qui est un Goliath, mais un Goliath au pied d'argile. Je pense que ce Goliath-là, nous pouvons sans trop de présomption dire qu'il n'en a plus pour très longtemps. Parce qu'une société qui va tellement contre la loi naturelle, une société qui va tellement contre la sagesse du Créateur, ne peut pas durer très longtemps. Évidemment, nous avons la tête dans le guidon, il nous paraît stable ce gouvernement, il nous paraît durable en réalité. Que sera-t-il si non seulement nous allons battre le pavé, mais si en plus nous sortons cette arme redoutable, ce joyau de famille à la face de tous ces mécréants? Il y a un deuxième danger qui nous guette aujourd'hui, mais il est bien moindre. Ne faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je ne compare pas ces lois iniques contre lesquelles nous nous battons à force de chapelet. Il s'agit du synode de la famille, l'assemblée extraordinaire des évêques qui va traiter à partir d'aujourd'hui, car c'est aujourd'hui que s'ouvre cette séance extraordinaire, réunissant 500 évêques, rien de moins, une sorte de petit concile, 500 évêques et combien de théologiens, combien de laïcs qui vont venir débattre de points très chauds à propos de la théologie du mariage. Vous connaissez les enjeux, nous avons deux écoles qui vont s'affronter et nous pourrions craindre effectivement que la porte ne soit ouverte sur des choses qui vont contre la volonté de notre Seigneur. Alors, plutôt que de s'énerver, de s'exprimer par blog interposé contre je ne sais quel avatar progressiste, je crois que le mieux à faire est encore d'entrer dans la logique du cœur de Marie, de s'emparer de notre chapelet. Je n'ai pas dit que cela suffisait, j'ai dit que c'était primordial pour pouvoir abattre tous les Goliaths qui essayent de mettre en pièces notre Sainte Mère l'Église et la vérité de Jésus-Christ qui est contenue dans l'Évangile. Vous voyez que nous avons fort à faire, alors haut les cœurs et reprenez-moi ce chapelet qui, j'espère, est au fond de vos poches. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.